Bonjour et bienvenue sur le podcast de Market Research News. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de deux invités pour parler études marketing et transition écologique. Ces deux invités, ce sont Delphine Parois, qui est directrice RSE et communication de Stratégir, un institut qui est spécialiste en particulier des FMCG, des enjeux d'innovation, de packaging et des études de shopper. Bonjour Delphine.
Bonjour Thierry.
Et notre co-invité est Jean-Maxence Granier, qui est lui le CEO et le fondateur de ThinkOut, une agence qui a une forte fibre quali, on va dire, qui intervient aussi sur beaucoup de sujets, dont l'innovation et aussi la marque. Bonjour Jean-Maxence.
Bonjour Thierry.
Alors, si vous êtes là tous les deux, c'est parce que vous partagez une conviction importante, celle qu'il faut mettre des études au service de la transition écologique. Vous avez même pris l'initiative d'organiser ensemble une table ronde pour associer d'autres professionnels à cette réflexion, à la fois côté institut et côté annonceur. Peut-être Delphine, je vous laisse citer quelques noms parmi ces participants.
Oui, bien sûr. Alors effectivement, on avait invité trois personnes pour participer à cette table ronde et apporter leur éclairage. Il y avait donc Fanny Bastot, qui est fondatrice de L'Oiseau Vert et qui est venue nous parler du marketing post-croissance. Il y avait également Clotilde Girard, qui est Data Insight Manager chez Ecotone, qui est une entreprise engagée, et Émilie Chalvignac, qui est directrice des opérations à l'Institut du Commerce.
Parfait. Alors, cette conviction de mettre les études marketing au service de la transition écologique, elle soulève pas mal de questions. C'est ce que nous vous proposons d'évoquer aujourd'hui. L'idée est aussi que ce podcast contribue à animer la réflexion au sein de la communauté du marketing et des études. On y reviendra bien sûr. La première question que j'ai envie de vous poser concerne les consommateurs eux-mêmes, dont on pointe souvent les contradictions, parce que quand on les interroge, ils se disent souvent favorables à l'adoption de pratiques plus vertueuses pour l'environnement et pour la société. Mais le passage à l'acte n'est pas forcément toujours évident, surtout quand il y a des tensions fortes sur le pouvoir d'achat, comme c'est le cas en ce moment. Quel est votre regard sur ce phénomène? Peut-être d'abord Jean-Maxence?
Oui, c'est une question effectivement essentielle, mais je voudrais faire deux premières remarques. La première, c'est que ces tensions ou ces contradictions que vous soulignez à juste titre, elles traversent l'ensemble du corps social. Elles traversent les consommateurs, mais aussi les entreprises prises entre leurs objectifs économiques et les enjeux environnementaux, la puissance publique. Je dirais que cette question, elle nous concerne tous. Voilà, l'ensemble du corps social. Mais ça en fait un excellent point de départ. La deuxième chose, c'est que souvent, cette contradiction entre les actes et les paroles, elle est construite comme une sorte d'impasse. Alors que pour moi, il faut partir de là. Il faut partir de ces tensions qui sont présentes chez le consommateur. Et c'est de ce point de départ qu'on peut commencer à construire quelque chose. Et c'est là, et je pense que c'est dans cet espace-là que les études ont leur rôle à jouer.
Très clair, très clair. Delphine, peut-être un mot à ajouter sur ce point?
Oui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, quand on revient vraiment aux consommateurs, c'est qu'on est face à des individus, finalement, qui veulent bien faire et qui le disent en toute bonne foi. Mais on voit effectivement que ce n'est pas retranscrit dans les faits, qu'il y a vraiment ce décalage entre des intentions d'un côté et du comportement de l'autre. Mais en fait, les consommateurs n'ont pas toujours conscience de ça, de ce décalage. Et en fait, pourquoi? Tout simplement parce que c'est complètement humain. C'est notre cerveau qui a la manœuvre. Et les travaux de Daniel Kahneman ont pu le démontrer. Il y a le système 1, le système 2. Et que les comportements sont beaucoup drivés par de l'implicite. C'est avant tout le désir d'accéder, le plaisir, etc. Et quand on parle en fait de développement durable, de responsabilité, on s'adresse pas à ce cerveau-là. On s'adresse à notre deuxième cerveau, qui est notre cerveau qui est plus rationnel et qui nécessite de la réflexion. Donc C'est humain finalement d'avoir ce décalage et pour pouvoir passer des messages et pour pouvoir faire adopter finalement des nouvelles formes de consommation, de nouvelles habitudes, il faut un petit peu tromper notre cerveau, utiliser un cheval de Troie quelque part. Voilà, il y a tout un tas de choses à réfléchir justement pour essayer de faire en sorte que les consommateurs passent à l'acte, mais c'est pas forcément évident et il faut prendre en compte ce qui est profondément humain, notre cerveau.
Humain, très humain, puisque Daniel Kahneman vient de nous quitter il y a quelques jours.
Tout à fait.
Très bien. Oui, Jean-Maxence?
En complément, je prendrais deux notions. Une notion qui est très marketing étude, c'est celle d'insight. Alors, il y a plusieurs définitions, mais souvent on définit l'insight comme justement une sorte de tension irrésolue du côté du consommateur qui va nourrir l'innovation de la marque. Bien, il me semble que ces contradictions que vous avez choisi de pointer au départ de cet échange, elle constitue une sorte d'insight majeur, hein, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, et que c'est de là qu'on doit partir. Et puis, il y a cette théorie sociologique féconde, hein, la réduction de la dissonance cognitive. Les gens mettent en place des stratégies pour se trouver une forme de cohérence. De manière plus ou moins artificielle, et je pense qu'il faut partir de là, il faut partir de la manière dont les gens définissent des manières de dépasser ces tensions, ces contradictions, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir peut-être élaborer collectivement des solutions qui seront effectivement choisies et non subies par le consommateur.
Donc on a notre point de départ. On a notre point de départ. Donc une des grandes questions, c'est de savoir ce que les professionnels des études peuvent faire à leur niveau, à eux, sur ces enjeux de transition écologique. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je peux peut-être commencer. Ce que l'on peut dire des instituts d'études, des professionnels des études, c'est que finalement, nous sommes un peu à la croisée des chemins. On est pris en sandwich, hein, entre les marques d'un côté qui ont besoin de savoir ce dont les consommateurs ont besoin. Donc nous, on est entre ces marques et ces consommateurs. Donc on a une place qui est assez stratégique. Et dans notre rôle de conseil, on peut avoir ce rôle d'influence, non pas en s'imposant, en donnant des leçons, mais vraiment en ouvrant le dialogue en fait avec les marques sur le sens des projets qu'elles veulent mettre en œuvre. Et ce sens, il faut vraiment le considérer à l'aune des enjeux sociaux et environnementaux. Est-ce que finalement le projet qui nous est soumis est en phase ou pas avec ces enjeux-là? Et si c'est pas en phase, eh bien, quelle serait notre capacité à aller les challenger nos clients, à les faire se questionner? Voilà, c'est en fait notre rôle. Il faut vraiment le redéfinir à l'aune de ces enjeux. On est comme nos clients, comme les consommateurs, on est partie prenante en fait de tout ce système. C'est un écosystème en fait dans lequel on a une place, et donc on doit adresser ces questions-là. Voilà. Et puis, il faut que on arrive aussi à donner aux consommateurs une vraie place en tant que répondant citoyen. Non pas en tant que répondant consommateur, mais aussi en tant que répondeur citoyen. Mais c'est aussi un répondant citadin, un répondant usager. Voilà. Et
Oui, il y a
en fait,
plein de
c'est
casquettes, oui.
voilà, il y a plein de casquettes. Et dans les études, on n'adresse pas suffisamment ces casquettes-là. On reste souvent cantonné à sa casquette d'utilisateur consommateur. Voilà. Et pour aller plus loin, finalement, c'est sortir vraiment de cette dynamique cible marketing où on veut essayer de couvrir tous les besoins, mais c'est plutôt redonner une vraie place dans la réflexion que l'on peut avoir avec nos clients sur le sens que leur proposition va avoir auprès de leurs consommateurs. Voilà, c'est vraiment ça, moi, que j'ai envie de répondre par cette quête de sens, en fait.
Il y a un rôle d'intermédiaire qui donne un pouvoir.
Tout à fait.
Jean-Maxence?
Mais en effet, hein, je trouve que le métier du marketing en général, mais plus spécifiquement le métier des études, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, elles se trouvent à l'articulation de la production, les marques, les entreprises et de la consommation, les consommateurs dont on parle. Donc, je pense qu'il y a une place là importante, un rôle à jouer par rapport aux enjeux environnementaux, à la question des limites planétaires qui se situe à cet endroit-là aussi. Et pour compléter ce que dit Delphine, je pense que moi, je suis arrivé dans le métier des études dans les années 90, hein, et c'était vraiment la marque jouait un rôle très important comme construction imaginaire, symbolique, sédimentation de toute une série de valeurs et de récits. Ben, je pense que les marques ont continué à jouer ce rôle-là dans une société de masse et de consommation. Et puis, il y avait un autre concept très important et encore plus ancien qui était celui des produits, hein, de définir des produits, et de les proposer au marché. Je pense que, et c'est quelque chose que les études connaissent bien, que la question des usages, des pratiques, doit revenir sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'on doit interroger effectivement la manière même dont les gens se nourrissent, utilisent des moyens de mobilité, profitent de leurs loisirs. Voilà, il faut en venir à des pratiques, à des usages, à une dimension ethnologique qui existe, hein, nativement dans nos métiers depuis toujours. Ça, c'est important parce que c'est là que des solutions nouvelles vont être élaborées, à la fois par évidemment les entreprises de produits et de services et par les consommateurs qui déploient de nouveaux usages, de nouvelles pratiques. Ces études qualitatives ou quantitatives, mais approfondies, qui visent à bien comprendre ce que les gens font et sans doute ce qu'ils pourraient faire autrement, du coup, ça me paraît très important.
Les imaginaires, mais aussi les
Oui,
comportements qu'ils.
absolument. Je crois qu'on a besoin d'imaginaires et d'ailleurs on a besoin de nouveaux imaginaires, sans doute portés par des marques. Mais je crois que la dimension entrepreneuriale est quelque chose de très important et que l'entreprise, ses performances propres, mais aussi les solutions qu'elle propose aux acteurs, voilà, ça redevient tout à fait, me semble-t-il, central.
Alors, le métier des études est quand même très attaché à un principe, celui de la neutralité, l'objectivité. Pour être un peu cash, si vos interlocuteurs se contrefichent de ces enjeux, ou disons, voilà, ça ne fait pas partie de leurs priorités, quelle ligne de conduite vous pouvez avoir?
Oui, alors ça c'est une vraie question. Et pour moi, un des enjeux, c'est de peut-être de distinguer neutralité et objectivité. Je crois que méthodologiquement, l'objectivité, c'est très important. On mesure des comportements, on essaye de comprendre le consommateur en profondeur d'un point de vue psychosocial.
Il y a une scientificité de la
Ouais,
démarche.
il y a une scientificité tout à fait, et quelque part, à travers des méthodes, à travers une rigueur, que ce soit dans le quali ou dans le quanti, et ça, il faut le préserver. Ben, si on mesure que seulement, je sais pas quoi, 10% des Français s'intéressent vraiment à la transition écologique, c'est comme ça, et c'est un résultat. Après, neutralité, je pense que l'ensemble des métiers, des corporations, des acteurs sociaux, doivent se mobiliser. Et là, on peut avoir quelque chose de plus engagé, hein, articulé à cette objectivité méthodologique, et donc se mettre au service du client qui finance au fond ces démarches d'études, mais aussi et simultanément de la transition, hein. Donc c'est évidemment, on se doit au client qui fait appel à nos services. Mais un peu comme une entreprise à mission se doit à ses clients et à ses actionnaires, mais elle se doit aussi à la société. Je dirais que du point de vue de l'exercice de notre métier, On a aussi une mission sociale, hein, évidemment, en
Mmh.
étroite échange et négociation avec nos clients. Et voilà, et quelquefois, ben, on peut faire des choix éthiques d'entreprise, choisir de travailler ou de ne pas travailler sur certains produits si on les juge, mais trop en contradiction avec certains enjeux. Mais je dirais comme chacun peut le faire dans l'espace des rapports économiques. Voilà, mais évidemment, il faut garder une distance, il faut garder, c'est pas une position militante, au contraire, la position étude, c'est une position seconde d'observation et d'analyse. Il faut être évidemment capable d'observer et de comprendre des gens qui pensent très différemment de nous, et c'est le cœur de notre métier. Voilà. Voilà, donc c'est plutôt ce. Objectivité des méthodologies et de l'approche, scientificité, mais pas forcément neutralité, c'est-à-dire non-engagement dans l'espace du public et dans l'espace économique dans lequel on joue notre rôle.
Ouais, je comprends. Delphine, vous avez partagé
Oui, alors.
cette vision, ouais.
Oui, moi je partage complètement la vision de Jean-Maxence sur cette notion d'objectivité et de neutralité. Et je dirais qu'il faut finalement aussi trouver des nouveaux modes de travail avec l'ensemble des parties prenantes. En fait, c'est vraiment le travail de coopération qu'on mettra en œuvre avec nos clients, avec les consommateurs, avec les citoyens, qui pourra donner des effets finalement. On est tous dans le même bateau et les solutions, on les trouvera ensemble. Alors, on peut trouver des méthodes qui sont objectives pour pouvoir le mesurer, mais ensuite, on a un vrai rôle à jouer dans la manière d'adresser ces questions-là. Et donc, la question de neutralité, en fait, il faut qu'on soit quand même un peu des chamboule-tout, des agitateurs. Il faut qu'on amène les clients à se poser des questions. Il faut que on les engage aussi à questionner différemment les consommateurs citoyens, parce que sinon on n'aura pas les bonnes réponses aux vraies questions. Donc on peut pas être chamboule-tout et neutre. Voilà. Donc il faut qu'on endosse aussi ce rôle-là, parce que ils attendent aussi ça de nous, hein, finalement. Ils en ont besoin. Ils ont besoin d'avoir ce regard un peu extérieur, porté sur ce qu'ils font. Alors oui, il y en a certains, ça va être très compliqué et on n'ira pas. Enfin, faut être honnête. On sait très bien. Faut voir où on met les pieds, comment on aborde les sujets. On les abordera pas de la même manière avec tout le monde. Mais on sent bien quand même. Moi, je trouve que les clients sont quand même de plus en plus demandeurs d'être accompagnés sur ces questions-là, parce qu'elles sont vraiment pas simples. Et quand on nous dit, ben nous, on n'arrive pas à mesurer la vérité, entre guillemets, vérité vraie des consommateurs, c'est qu'il y a un problème. Et aidez-nous à aller chercher cette vérité vraie. Comment on le fait? Donc, on est tous partenaires. Je pense qu'il faut vraiment l'envisager comme ça. On cherchera jamais à changer des chiffres, mais à donner du sens à ces chiffres. De se dire, ben, comment voilà, ça performe pas alors qu'on aurait bien aimé le pousser. Ben, comment faire pour le pousser? Quels sont les signaux que nous ont envoyés les consommateurs pour essayer d'optimiser ce que l'on a testé et qui ne teste pas bien finalement? Donc voilà, il y a ce besoin de partage, d'échange, de coopération, de collaboration, et je pense qu'on ne changera pas les choses de manière durable, si on ne se met pas tous autour de la table et si on n'a pas finalement des enjeux un peu communs.
Donc la co-construction est
Ouais.
possible et souhaitable. Et en même temps, ce que vous dites, enfin, c'est effectivement important, c'est qu'il y a une appétence pour une vérité, une vérité du consommateur qui ouvre un espace intéressant. Enfin, c'est très bien, très bien. Alors, si on se met à la place maintenant de vos interlocuteurs qui, dans les entreprises, bon, certains sont sensibles à ces enjeux, mais là, il peut y avoir un peu deux cas de figure. Premier cas, les dirigeants de ces entreprises, ils le sont aussi, très bien, tout le monde est aligné, mais il peut y avoir aussi d'autres cas où ces interlocuteurs, ils sont un peu seuls dans leur entreprise là, à porter ces enjeux. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Jean-Maxence?
Ouais, c'est un vrai enjeu, hein, parce que on le voit dans les entreprises, le degré de prise de conscience, la difficulté à faire évoluer le modèle d'affaires peut être extrêmement variable. Il peut y avoir des dissonances entre l'engagement individuel professionnel de certains et le réel de l'entreprise, ou au contraire, un alignement plus important. Donc, il faut travailler avec toutes sortes d'acteurs et il faut distinguer les gens. Clairement, on est dans des pratiques professionnelles, on n'est pas une ONG, on n'est pas, nous ne sommes pas des militants, on peut l'être par ailleurs, hein, mais des militants, etc. On est dans en fait, ce que moi je trouve intéressant, c'est de voir comment le métier des études en tant que tel, avec ses méthodes et sa rigueur, peut être mis au service de cette transformation qu'on ressent comme globalement nécessaire, même si elle peut prendre des formes multiples. Donc, je dirais que c'est plutôt un travail de sensibilisation à travers justement les démarches d'études, parce qu'au fond, cette dimension, elle devient de plus en plus structurelle, elle touche aux énergies, elle touche aux matériaux, elle touche aux cycles de consommation, de production-consommation. Et donc, voilà, c'est ce qui est important, c'est que dans nos pratiques métiers, il y ait une forme d'engagement qui n'est pas un engagement militant, qui est un engagement professionnel à donner une vision claire, hein, et un tableau riche de ces enjeux dans l'esprit des consommateurs, dans leur comportement. Et il faut voir que quelquefois, il y a des stratégies d'évitement, hein, des acteurs économiques, dire oh ben non, mais moi, la question RSE, je la laisse de côté, alors même qu'elle est présente dans la tête des consommateurs. Donc, au moins, mettre la question sur la table, sachant que il n'y a pas de réponse toute faite, hein, que les réponses à donner sont complexes. Et voilà, donc au fond, je dirais que plus on exerce de manière intègre, rigoureuse notre métier, il me semble que plus on est à même justement de faire avancer les choses du point de vue des enjeux environnementaux.
Avec cette notion d'être, enfin voilà, de ce rôle d'intermédiaire que vous évoquiez
Ouais.
précédemment.
De
Oui,
médiation entre
d'accord.
ce que je disais, entre consommation et production. Presque de dialogue.
Delphine, comment vous voyez les choses
Oui,
sur
alors
ce
ça rejoint un
point?
petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ces deux cas de figure. Avec ceux qui sont déjà assez engagés, et puis ceux qui ne le sont pas, pour qui ce n'est pas une préoccupation aujourd'hui. Moi, je dirais que je n'ai pas forcément envie d'imposer le rythme. Ce n'est pas à nous de l'imposer et de leur dire bah, vous n'y êtes pas, qu'est-ce que vous attendez? Enfin, je pense qu'il faut venir, il faut les laisser venir. Et de toute façon, ils y viendront. C'est ainsi, la réglementation va faire que toutes les entreprises vont être obligées de mettre en place un certain nombre de choses, que ça va être plus ou moins complexe pour certains. Il y en a qui le voient comme une opportunité, vraiment, parce que ça va permettre de mettre tout le monde au même niveau, sur les mêmes critères. Et voilà, c'est plus un avantage concurrentiel ou quelque chose. Enfin, c'est voilà, c'est tout le monde, c'est la CSRD. Et ça va s'imposer de toute façon. Donc, ils vont venir et à ce moment-là, ben, on sera là. Et on sera là parce que, et ils le savent, parce qu'on aura commencé à en parler, à sensibiliser, à justement faire ce rôle un petit peu d'agitateur, de chamboule-tout, de communication, ce qu'on fait aujourd'hui finalement, hein, de dire, ben, nous, on est là pour un petit peu ben, faire en sorte qu'on voilà, se poser des questions sur ça. OK, vous n'êtes pas prêt à y aller, très bien, c'est pas grave, enfin, c'est votre choix. Nous, on vous pose la question. Mais il y a ce temps long qui est très important, il y a cette petite musique qu'on joue. Qui voilà et petit à petit les choses vont se mettre en place et finalement je pense que c'est ceux qui seront dans le second cas de figure pour qui c'est aujourd'hui une préoccupation très secondaire qui vont le plus se marginaliser par rapport aux autres et qui vont se retrouver à un moment donné un peu dans une impasse parce qu'ils n'auront pas anticipé et que ça va être beaucoup plus compliqué par rapport aux autres qui auront déjà essayé de mettre en œuvre, qui se seront peut-être pris des portes, hein, mais c'est ça qui permet d'apprendre. Donc voilà, je pense que nous, notre rôle, c'est vraiment de rester à l'écoute des tensions qu'il peut y avoir au sein des entreprises par rapport à ces changements qui sont complexes. Et c'est normal, quoi. Enfin, c'est OK de dire, ben, c'est compliqué d'y aller aujourd'hui. Enfin, toutes les entreprises ne sont pas disposées à mettre en place des choses sur du court terme. Donc, il faut que aussi nos études se mettent au service de cette complexité-là et qu'on l'entende et qu'on puisse l'adresser et avec beaucoup d'humilité. Parce que dans ces sujets-là, si on n'a pas d'humilité, on est grillé d'avance. En fait, on peut pas avancer parce qu'on n'est pas, on apprend tous en marchant. Enfin, je veux dire, personne ne sait vraiment comment seront les choses dans 10 ou 15 ans. Donc beaucoup d'humilité et puis ne pas imposer le rythme.
Oui, très clair, très clair. Alors, je reviens sur le rôle des instituts d'études. Est-ce qu'il vous semble imaginable que soit créée une sorte de charte, en fait, à usage des professionnels des études, avec une logique donc d'engagement à respecter un certain nombre de règles de conduite? Ou bien pourquoi pas, alors si on prend dans l'autre sens, hein, enfin, pourquoi pas un label, hein, voilà, il y aura un label comme ça qui pourrait être attribué aux instituts qui observent ces principes. Et qui serait comme une valeur sur le marché, finalement, un signe, un repère sur le marché. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est imaginable, ça ne l'est pas?
Oui, c'est une piste. Alors, il faut faire attention parce que on sait que quelquefois, pas toujours, hein, la charte, ça peut être aussi une bonne machine à greenwasher.
Oui.
Mais en tout cas, elle aurait du sens, à mon avis, si par exemple, elle s'appuie sur un dialogue assez étroit entre les sociétés d'études, prestataires de services et les gens qui commandent et qui utilisent des études au sein des entreprises. Le métier des études, il est biface, hein. Il y a des gens qui les produisent et puis il y a des gens au sein des entreprises qui les commandent, qui les pensent, qui les financent, qui en déploient les effets. Voilà. Donc premier point important. Et puis si c'est pas des grands principes généraux, on les trouve ailleurs. Ça traverse le champ de la discussion sociale. Pour moi, ça doit vraiment renvoyer à des pratiques métiers. C'est-à-dire, bon, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, en tant qu'électeur, en tant que consommateur, on fait des choix. Mais là, c'est qu'est-ce qu'on fait en tant que gens d'études? C'est ça que je trouve le intéressant. Et donc, et peut-être hein, d'ajouter à notre cœur de métier qui est de donner des éléments de compréhension pour nourrir les stratégies des entreprises qui sont nos clientes, d'ajouter à ça l'idée effectivement de contribuer, d'ailleurs comme nos entreprises clientes le font aussi, à un monde plus soutenable. Voilà, donc ça serait un peu de définir au fond la mission au-delà du service et du bénéfice qu'on essaye de construire pour nos clients, que le métier s'attribuerait. Et puis l'idée, c'est de l'élaborer aussi collectivement avec l'ensemble des professionnels. Voilà, donc c'est bon, une charte, pourquoi pas, mais c'est pas une charte de plus. C'est vraiment l'idée de comment orienter les métiers des études en intégrant de façon réfléchie ces enjeux environnementaux qui sont majeurs.
Delphine, sur cette notion de charte, vous en pensez quoi?
Oui. Alors moi, j'aimerais bien ouvrir sur, parce que là, on est en train de parler plutôt du métier des études, mais de manière un petit peu plus large, parce qu'il existe déjà des référentiels, des chartes qui peuvent largement inspirer et donner des leviers de redirection aux professionnels des études qui le souhaitent. Et ce sont des travaux qui ont pu être menés notamment par Syntec Conseil, notamment sur un référentiel donc qui permet aux entreprises de se mettre de se donner un guide en fait, hein, un guide pour évoluer. Enfin, elle travaille hein, sur un référentiel, il n'est pas disponible, mais elle travaille sur un référentiel. Et puis, il y a également une charte qui a été élaborée dans le cadre de la Convention des entreprises pour le climat par les sociétés des sociétés de conseil qui donnent aussi un cadre pour évoluer. Donc, il y a des choses qui existent. Moi, je pense que s'il y a une charte spécifique pour les métiers des études, il faut qu'on fasse attention à ne pas être partie prenante de nous-mêmes. Moi, c'est un peu la seule crainte que j'ai, c'est de se dire on s'auto-juge, on s'auto-évalue,
Ouais.
mais il faut que ce soit à un niveau qui donne confiance. Donc, c'est un peu comme les labels maison sur des produits alimentaires. Versus des organismes indépendants, ben c'est un petit peu pareil. Il faut un organisme indépendant qui est là pour bah, dire si, si les engagements sont suivis ou pas. C'est vraiment important. Donc, c'est quand même un process qui est long, assez fastidieux à mettre en œuvre, parce que ça veut dire créer quelque chose avec une entité, un organisme tiers indépendant qui est capable aussi de juger des bonnes pratiques. Et puis je terminerai juste sur ce point-là par le pour dire qu'il y a aussi des labels hein, et des statuts qui existent, alors qui sont pas spécifiques, mais qui donnent confiance aussi aux clients parce que ça démontre aussi que les entreprises se sont mises en mouvement pour changer. Donc là, il y en a beaucoup. Le statut de société à mission dont on a déjà parlé ici, le label B Corp, les labels EcoVadis, voilà, ce sont des labels aussi qui permettent de justifier des bonnes pratiques.
Très bien, très bien. Donc, nous avons parlé des consommateurs, nous avons parlé de vos interlocuteurs, leurs dirigeants, on a parlé du rôle des professionnels. Est-ce que vous voyez, je sais pas, un dernier point, ajouter éventuellement un message, que ce soit à l'attention de vos confrères ou à l'attention des annonceurs, ou éventuellement aussi aux organisations du market research qui font partie des, voilà, qui sont partie du jeu.
Fait. Moi, je peux démarrer.
Oui, Delphine.
Moi, le principal message que j'aurais, c'est celui de vraiment que j'ai évoqué, c'est celui de la coopération. Et c'est un petit peu ce qu'on fait avec Thinkout, hein, Thinkout et Stratégir. On prit la parole ensemble au travers de cette table ronde on avait dans notre auditoire, bah, des clients, mais pas que. On avait aussi des professionnels des études qui étaient là, curieux de savoir ce qu'on avait à raconter sur ce sujet, qui avaient aussi envie d'être embarqués. Donc, la coopération, mettre ces sujets sur la table et puis se serrer les coudes aussi là-dessus, parce que forcément, quand on adresse ces sujets-là, qui sont pas forcément, on a dit plutôt super désirables, ben, parfois on fait un peu figure, je dirais, de un peu d'ovnis ou d'empêcheurs de tourner en rond parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut ou ça pourrait être perçu comme ça. Et finalement, ben, quand on en parle tous ensemble, ben, on est plus fort et on est plus crédible, on est plus légitime aussi. Parce que c'est un petit peu les questions, moi, qu'on m'a posées au départ. On dit, mais institut d'études, qui tu es pour aller parler de ces choses-là à tes clients?
Ouais.
Ben, si, on a un rôle à jouer parce qu'on est tous, comme je disais, on est tous dans le même bateau. Donc, y a cet enjeu vraiment de coopération, de partage, de mettre en commun. Des pratiques et voilà, c'est vraiment il y a un terme que j'aime bien, c'est le terme de coopétition plutôt de voilà on n'est pas que des concurrents et sur ces sujets-là, mais c'est valable pas seulement pour le métier des études, c'est valable partout. C'est valable dans l'industrie agroalimentaire. Il y a un gros enjeu de coopétition pour faire évoluer les pratiques. Donc, c'est pas, c'est, voilà. C'est vraiment ce message-là, moi, que j'ai envie de porter.
La compétition est là, mais elle n'exclut pas la coopération.
Exactement.
Jean-Maxence?
Oui, moi, trois points qui me paraissent majeurs hein, pour peut-être aller vers la conclusion de cet échange. Les solutions. Face aux contraintes, aux limites planétaires et aux contraintes qu'elles constituent, elles vont être complexes. Elles peuvent être technologiques, elles peuvent être liées à des stratégies de cycle, comme avec l'économie circulaire, elles peuvent être liées à la sobriété hein, des usages, elles peuvent être liées aussi à un meilleur usage des écosystèmes eux-mêmes avec les enjeux régénératifs. Et donc, on va aller vers des solutions hybrides, complexes, qui ne sont pas évidentes. Il n'y a pas de solution toute faite. Pour moi, ce réel oblige à revenir aux usages, comme je l'ai dit plus haut. Et globalement, je pense que les gens de marketing et les gens d'études vont avoir un rôle important dans la conception même des offres. Voilà. Donc, il y a une espèce autour de la créativité et de l'innovation, très, très en amont. Et ça me paraît quelque chose d'important. Le second point, on l'a évoqué, hein, c'est au fond une sorte de dialogue ouvert, concret, avec les consommateurs qui sont aussi des citoyens. Et puis peut-être le troisième point qui me paraît aussi tout à fait essentiel, c'est que oui, ce dialogue avec les consommateurs, mais d'une manière générale, il va falloir souvent dans la prise en compte des enjeux et des solutions, intégrer l'ensemble des parties prenantes, hein, donc le client, mais aussi d'autres acteurs de la filière, de la chaîne de valeur, et donc être capable de travailler non seulement, par exemple, avec des entreprises, mais je dirais même avec des écosystèmes qui associent plusieurs acteurs économiques différents. Et ça me paraît aussi, c'est pas tellement dans les habitudes du métier, mais quelquefois ça se présente. Car, par exemple, quand on travaille pour des territoires, on voit bien qu'il y a une multiplicité d'acteurs et qu'on peut les nourrir et et leur donner des contenus qu'ils vont partager. Mais voilà, cette dimension plus écosystémique, plus intégrative de l'ensemble des parties prenantes, ça me paraît un enjeu aussi majeur que le métier des études doit prendre en compte.
Parfait, parfait. Alors, un dernier mot que j'ajouterais, hein, c'est que, alors, je l'évoquais un peu en préambule, c'est que ce podcast, il a vocation à contribuer à un débat, à une réflexion, à laquelle nous proposons de vous associer. Alors, je m'adresse aux auditeurs, hein. Si vous avez des convictions à partager, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire, tout simplement dans la partie commentaires sur LinkedIn, dans le post dont vous trouverez le lien. Ci-dessous. Voilà, c'est le débat, il est fait pour vivre. En tout cas, c'est l'appel que nous formulons. Un très grand merci à vous, Delphine et Jean-Maxence, pour cet échange et une très bonne journée à tous.
Merci beaucoup Thierry.
Merci Thierry.
Ce podcast est réalisé par Thierry Zambla. À bientôt sur Market Research News.